Le journal, c'est avec Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La Grèce, tout près de trouver un accord avec ses créanciers pour un troisième plan d'aide au pays. Seuls quelques détails secondaires sont actuellement encore en discussion. Les précisions d'Angélique Kourounis à Athènes.
Une autre dette au cœur de l'actualité, celle de l'Ukraine. Elle atteint 23 milliards de dollars. Dans un contexte économique ravagé par la guerre, le pays discute cette semaine avec ses créanciers.
Le Japon compte à nouveau un réacteur nucléaire en activité. Celui de Sendai, dans le sud-ouest de l'archipel. Son redémarrage 4 ans après la catastrophe de Fukushima met fin à près de 2 années sans électricité nucléaire au Japon. La correspondance dans ce journal de Frédéric Charles.
La Turquie, c'est comme vous voulez. La Turquie cible d'une série d'attentats hier. Un groupe d'extrême gauche a revendiqué un attentat contre le consulat américain d'Istanbul. 6 policiers et soldats sont par ailleurs morts dans des attaques attribuées aux séparatistes kurdes du PKK. Est-ce le début d'une guerre sur plusieurs fronts ? Analyse de Jérôme Bastion, correspondant de RFI à Istanbul.
En France, les industriels de la viande engagent un bras de fer pour le prix du porc. Hier, les deux plus gros acheteurs ont refusé de participer aux cotations de cette viande. La nuit a porté ses fruits en Grèce. Les négociations sont sur le point d'aboutir entre le gouvernement de Tsipras et les créanciers du pays, la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et le Mécanisme Européen de Stabilité. Toutes les parties se sont entendues sur une feuille de route budgétaire, Angélique Kourounis.
Le gouvernement grec et ses 4 institutions créancières, enfermées dans un hôtel du centre-ville depuis 2 semaines, ont convenu qu'en 2015, le pays connaîtrait un déficit primaire de 0,25% du PIB, de 0,5% en 2016, d'1,75% en 2017 et de 3,5% en 2018. Ce dernier chiffre étant déjà dénoncé comme très difficile à atteindre par bon nombre d'économistes. L'accord qui doit être finalisé dans ses détails aujourd'hui en vue d'une soumission au vote au Parlement grec ce jeudi achoppe sur les questions des privatisations de l'énergie et des prêts bancaires non remboursés qui fragilisent les banques. Mais l'optimisme est affiché de part et d'autre pour dépasser tous les éventuels problèmes, y compris dans la journée. L'accord initial trouvé au forceps le 12 juillet dernier à Bruxelles avait divisé le parti de la gauche radicale au pouvoir, l'aile gauche ayant refusé de voter pour ce troisième train d'austérité jugé irréalisable. Et il semble que sa finalisation, qui implique de nouvelles mesures d'austérité, consacrera la division du Syriza et poussera même le pays vers des élections anticipées cet automne. Cependant, pour faire digérer par avance à l'opinion publique certaines mesures sociales très difficiles, le Premier ministre Alexis Tsipras a pris les devants hier en annonçant, hors du cadre de l'accord, une plus forte imposition des députés et une baisse du traitement des ministres. Mesures hautement symboliques qui vont sans nul doute renforcer sa popularité.
Et puis une autre semaine décisive pour un autre pays endetté, l'Ukraine. La ministre des Finances du pays doit négocier à San Francisco avec ses créanciers, principalement américains, la restructuration de la dette extérieure ukrainienne. Elle atteint 23 milliards de dollars, plus de 150% du produit intérieur brut de l'Ukraine. Le défaut de budget pèse comme une épée de Damoclès sur le pays, mais à la différence du gouvernement de Tsipras en Grèce, les autorités ukrainiennes ont tout de suite accepté les réformes imposées par le Fonds monétaire international au prix d'énormes sacrifices pour une population déjà traumatisée par la guerre, avec une économie au point mort. La correspondance à Kiev de Stéphane Suran.
Il y a 10 jours, le FMI a accordé à l'Ukraine un nouveau prêt de 1,7 milliard de dollars. L'objectif du fonds est d'aider l'Ukraine à soutenir sa dette colossale alors que le pays doit faire face à une guerre sur son propre territoire. Mais à la différence des Grecs, les Ukrainiens acceptent pour le moment les solutions libérales qui ont été imposées par le fonds. Le premier chantier, c'est la réforme du secteur public. Les administrations, héritées du système post-communiste, sont désarmées de fonctionnaires sous-payés à hauteur de 150 dollars par mois, un phénomène qui entraîne une corruption à tous les étages. Le ministère de l'économie, par exemple, compte réduire ses effectifs de moitié d'ici la fin de l'année et augmenter les salaires de ceux qui resteront. L'autre dossier, c'est celui du gaz. Le FMI a imposé à l'Ukraine la privatisation de sa compagnie d'État. Le prix du gaz a déjà été multiplié par 3 depuis l'hiver dernier. Enfin, cette année, le gouvernement a voté une baisse de 20% des retraites, déjà très basse. Le salaire moyen a baissé de 20% en un an, alors que les prix à la consommation ont augmenté, eux, de plus de 40%. L'Ukraine est un cas extrêmement encourageant, a récemment commenté Christine Lagarde, la directrice du FMI. Reste à savoir combien de temps les Ukrainiens, qui font preuve d'une surprenante résilience au drame de la guerre, accepteront de boire cette potion très amère.
Aux États-Unis, l'état d'urgence a été décrété à Ferguson, cette ville du Missouri, un an après la mort de Michael Brown, jeune homme noir abattu par un policier blanc. À l'issue d'une manifestation en sa mémoire, une fusillade a éclaté. Hier, un homme de 18 ans a été arrêté et inculpé de violence contre les forces de l'ordre. Une soixantaine de manifestants également interpellés. Malgré cet état d'urgence, un nouveau rassemblement a eu lieu cette nuit à Ferguson. Plus de 4 ans après l'accident de Fukushima, un premier réacteur nucléaire a été relancé ce matin au Japon. C'est dans la centrale de Sendai, située à 1000 km au sud-ouest de Tokyo. Redémarrage sous haute surveillance, la centrale a tenu sur son site plusieurs exercices ces derniers jours sur la base d'un scénario similaire à celui de Fukushima. La correspondance à Tokyo de Frédéric Charles.
Le pays de Fukushima réactive un premier réacteur. 100 millions de dollars ont été investis dans la centrale de Sendai, la plus éloignée de Tokyo, pour prévenir un nouveau Fukushima. L'opération d'entrée en fusion du cœur du réacteur numéro 1 s'est faite sous la supervision de l'autorité de régulation nucléaire, ce qui est exceptionnel. En service depuis 31 ans, il avait été arrêté en mai 2011, 2 mois après l'accident de Fukushima, pour une opération de maintenance de routine. Entre-temps, la nouvelle autorité de régulation a voulu s'assurer qu'un accident comme à Fukushima, considéré jusqu'alors comme impensable, ne puisse pas se reproduire. La centrale de Sendai et les autres prêtes à réactiver leurs réacteurs doivent désormais inclure dans leur dispositif de sûreté une rupture totale de l'alimentation des systèmes de refroidissement et une fusion simultanée de plusieurs cœurs de réacteurs, comme ce qui s'est passé à Fukushima. Dans un rayon de 160 km autour de la centrale de Sendai, il y a 5 volcans actifs. 57% des Japonais restent hostiles au redémarrage de leurs 48 centrales, tout à l'arrêt depuis Fukushima. Mais les achats massifs de gaz et de charbon pour faire tourner les centrales thermiques ont creusé le déficit commercial japonais et augmenté massivement les émissions de gaz à effet de serre.
Frédéric Charles, correspondant d'RFI à Tokyo. La Turquie cible d'une série d'attentats hier. Un groupe d'extrême gauche a revendiqué une attaque contre le consulat américain d'Istanbul. Par ailleurs, 5 policiers et un soldat ont été tués dans des attaques attribuées aux séparatistes kurdes du PKK. Est-ce le début d'une guerre totale pour Ankara ? L'analyse de Jérôme Bastion, correspondant d'RFI à Istanbul.
Bingöl, Bitlis, Ahre, Hakkari, Lice, Şemdinli, Şırnak, dans chacune de ces villes du Kurdistan turc hier, et hormis les attaques qui ont coûté la vie à 5 membres des forces de l'ordre, la rébellion a visé des policiers et des militaires, et elle en a blessé plusieurs. Pour autant, on ne peut pas encore parler d'une guerre ouverte, d'une guerre totale. Le sentiment qui prévaut est que l'on assiste à une guerre de harcèlement, peut-être en attendant que la situation politique se clarifie, élections anticipées ou gouvernement de coalition, et qu'une conflagration générale est encore évitable. D'où les appels qui se multiplient à gauche, notamment de la part du Bloc pour la paix, qui a tenu un grand meeting dimanche à Istanbul, pour que les armes se taisent simultanément des deux côtés. Du côté du parti pro-kurde HDP, on appelle le PKK à faire le premier pas en cessant ses attaques pour que l'armée à son tour mette en sourdine ses opérations anti-guérilla. Certains suggèrent d'en appeler au leader historique du PKK, Abdullah Öcalan, pour qu'il lance depuis sa prison un appel au calme. Mais il demeure tenu au secret. Le gouvernement réclame toujours le dépôt inconditionnel des armes par la rébellion, qui elle exige la relance des négociations et la libération de ses membres arrêtés. Bref, la situation est bloquée, mais le pire n'est peut-être pas inévitable, car tout indique que le PKK s'en tient et va s'en tenir pour l'instant à des représailles contre les forces de sécurité dans le sud-est, sans mettre le doigt dans l'engrenage du terrorisme urbain pratiqué par l'extrême gauche avec laquelle elle n'a pas de lien organique et pas d'objectif commun.
En Syrie, les autorités ont arrêté le cousin du président Bachar al-Assad, accusé d'avoir tué un officier supérieur à l'attaquer dans l'ouest du pays. Souleymane el-Assad, qui avait tué donc cet officier, qui avait osé le doubler sur la route. Un millier de personnes avaient manifesté dans ce fief de la communauté alaouite à laquelle appartient le président Bachar al-Assad. François Rebsamen a repris les rênes de sa ville de Dijon hier. Il compte remettre sa démission du gouvernement le 19 août prochain après plus d'un an et demi passé au ministère du Travail. Un an et demi marqué par des couacs de communication et une hausse du chômage. La reprise économique se confirme pour la France après la publication des prévisions de l'OCDE et de la Banque de France hier. La Banque de France qui prévoit une croissance de 0,3% au troisième trimestre comme l'INSEE et l'OCDE qui estiment que les perspectives vont en s'améliorant. À ce rythme-là, ce ne sera pourtant pas suffisant pour faire reculer le chômage d'ici la fin de l'année, Jean-Marc Chardon.
La France semble assez bien partie pour réaliser une croissance à 1,2% cette année. Si tel est le cas, cela ferait de 2015 l'année de la vraie reprise. Celle qui est attendue depuis le début de la décennie, mais chaque fois déçue au point que le gouvernement, par prudence, s'est arrêté à un modeste 1% dans ses prévisions. Avec une croissance de 1,2%, nombre d'économistes pensent que cette fois, le chômage cesserait d'augmenter. Il se stabiliserait car si l'emploi total devrait progresser de 114 000 postes, ce serait de toute façon absorbé par l'augmentation de la population active. L'inversion de la courbe du chômage, au mieux, ne se produirait alors que l'année prochaine et pourrait être visible si les dernières perspectives devaient se vérifier. Avec des projections à 1,8% de croissance en 2016 et un peu plus encore en 2017, le chômage pourrait cette fois reculer, comme il recule partout en Europe. Scénario possible, mais incertain, vu que cette croissance est largement tributaire de la baisse du prix du pétrole, de l'euro et des taux d'emprunt. Autant de facteurs extérieurs qui peuvent varier en quelques mois et remettre en cause toutes les prévisions. C'est dire le caractère aléatoire de cette reprise dont l'effet d'entraînement n'est pas garanti car beaucoup de chefs d'entreprise hésitent à investir, notamment dans l'industrie.
Nouveau rebondissement dans la crise de la filière porcine. Aucune cotation n'a eu lieu hier au marché du porc breton où s'établit le prix de référence national de cette viande. Les deux plus gros acheteurs de porc, la Coperle et Bigard Socopa, ont refusé d'y participer jugeant le prix actuel trop élevé, environ 1,40€ le kilo. C'est l'objectif fixé par le gouvernement depuis le 12 juin dernier pour tenter de résoudre la crise traversée par les éleveurs de porc français. Les explications de Manuel Ruffez.
Cette fois, ce sont les industriels qui se rebellent et c'est toute la filière qui est ébranlée. Que disent-ils ces industriels? Qu'à 1,40€, le tarif est trop élevé pour eux face à une concurrence allemande et espagnole qui pratique le dumping social et s'aligne à 25 centimes de moins. Face aussi à un secteur charcuterie salaison et à une grande distribution qui se tourne toujours vers les moins chers. Sans doute, ces industriels n'ont-ils pas tort, mais au bout du compte, ceux qui trinquent, déplore Paul Offray, le président de la Fédération porcine, ce sont les éleveurs.
Il y a une prise d'otage des éleveurs, tout simplement, et il y a du chantage, hein. Faut dire les choses comme elles sont. On est bien conscient des problèmes de marché au niveau européen, mais encore une fois, c'est toujours aux éleveurs de servir de tampon.
1,40€, c'est le minimum pour nous, affirme encore Paul Offray. Mais comment s'aligner sur des pays qui payent leurs salariés moins de 6€ de l'heure? C'est l'Europe qui accepte ça, qui est responsable, s'emporte-t-il? Une chose est sûre, impossible de faire sans ces deux gros industriels.
On s'en remet aujourd'hui au pouvoir public pour remettre de l'ordre un petit peu dans la filière, puisqu'aujourd'hui, si ces deux outils industriels décident de ne plus venir acheter au cadran, on va être dans une situation de paralysie complète de la filière.
Paul Offray a eu Stéphane Le Foll au téléphone hier soir. Le ministre de l'Agriculture lui aurait assuré que les cotations se dérouleraient normalement jeudi prochain.
La bataille procédurale autour de l'affaire Tarnac se poursuit trois jours après le renvoi en correctionnel de 8 militants libertaires soupçonnés d'avoir saboté des lignes TGV en 2008. Le parquet a fait appel de l'abandon de la qualification terroriste par la juge d'instruction. Cet abandon, un désaveu pour le parquet qui satisfait tous ceux qui depuis 2008 dénoncent une instrumentalisation politique de la part de la droite au pouvoir à l'époque. Pour David Dufresne, journaliste et auteur de Tarnac Magasin Général, la France doit tirer des enseignements de cette affaire Tarnac, notamment par rapport à la nouvelle loi renseignement.
Ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est absolument pas l'histoire de la dégradation, c'est comment la machine antiterroriste, c'est-à-dire les renseignements, les services de renseignement d'un côté, la police antiterroriste de l'autre, le parquet, la chancellerie et le ministère de l'Intérieur, peuvent faire de l'antiterrorisme, en fait, un mode de gouvernance. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et ça l'est d'autant plus que on veut tout mélanger et on arrive à des lois comme la loi sur le renseignement qui fait de nous tous une sorte de terroriste en potentiel. essentiel, en tout cas, on est tous surveillables à 24 heures sur 24. Le problème, si vous voulez, c'est que la société accepte ça, et d'une certaine manière, l'affaire de Tarnac fait partie des préparations. Ça, c'est préparer l'opinion publique. L'affaire de Tarnac, c'était une idée de préparer l'opinion publique au fait que, par exemple, ce qui était reproché à ces gens-là, c'était de ne pas avoir de téléphone portable, de ne pas utiliser Internet, donc de ne pas être surveillable. Et 7 ans plus tard, on a ce genre de loi. Il y a vraiment un rapport de cause à effet qui est vraiment simple à faire. Et si l'affaire de Tarnac permettrait éventuellement de réfléchir à tout ça, ce serait formidable. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Et l'affaire de Tarnac, elle est intéressante à ce sujet-là parce qu'on voit à l'œuvre une police qui est quasiment en roue libre, une justice qui est totalement en roue libre et qui va broyer des destins.
David Dufresne, l'auteur de Tarnac, magasin général, interrogé par Bintili Diallo. Une famille française de victimes va porter plainte contre l'État tunisien après l'attentat du musée du Bardo en mars à Tunis. Cette famille accuse l'État d'avoir négligé la sécurité des touristes, manque de garde, dit-elle, dans le musée le jour où 2 djihadistes ont attaqué l'un des sites les plus visités du pays. Le temps de ce mardi 11 août, pluvieux en Bretagne et en Basse-Normandie, nuageux en Champagne-Ardenne ainsi que dans le Pays Basque. Ensoleillé partout ailleurs, les températures maximales entre 18 et 22 degrés en Bretagne et en Normandie, entre 25 et 31 degrés partout ailleurs, jusqu'à 35 dans l'intérieur de la région PACA, Nicolas.
Catherine Dutty, on vous retrouve tout à l'heure à 9h pour le prochain journal.